Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Bienvenue à tous. Merci d'être venus si nombreux pour notre journée des fraternités, puisque nous sommes rassemblés pour prendre notre part de service et sous l'autorité de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint.
10h, ce samedi 19 juin. À Pamiers, dans la cour de la maison diocésaine, ils sont venus nombreux, très nombreux. Ils, une multitude de membres actifs ou en devenir des fraternités missionnaires du diocèse, près 220. À l'initiative de l'équipe d'accompagnement et autour de leur évêque, Mgr Jean-Marc Chêne, ils se retrouvaient dans cette fin d'année si perturbée pour un temps de partage, de rencontres et de ressourcements. Brouhaha, des retrouvailles, interpellations joyeuses. Et pour nous, un aparté, avec Claire et Geneviève de l'équipe d'accompagnement, petit rappel. Des fraternités missionnaires, pour qui, pourquoi, comment ?
Donc, fraternité, ce sont des rassemblements de chrétiens ou de gens intéressés par les questions d'Église qui se regroupent pour lire et méditer la parole de Dieu. Voilà, et donc essayer de la comprendre. Chacun étant complètement à même de pouvoir ingérer cette parole et qu'elle fasse son chemin ensuite en nous-mêmes.
Alors la parole de Dieu, c'est l'élément commun à toutes les fraternités. Il faut ajouter la vie fraternelle, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'il y a aussi un partage de vie dans ces moments de fraternité, en tout cas on l'espère, et même en dehors, en deçà, ça crée des petites familles, entre guillemets, d'église ou pas d'église, parce qu'il y a des personnes qui sont loin de l'église, dans certains cas.
Qui sont loin de l'église, et c'est le côté missionnaire, ça. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, la fraternité n'est pas qu'un rassemblement de chrétiens, elle doit s'ouvrir. Et quand le nombre est suffisant, elle doit se diviser. Voilà, c'est l'intérêt.
Ces fraternités missionnaires, elles répondaient à une attente, à un manque. Comment sont-elles nées ?
En fait, c'est un mouvement universel d'Église. Notre Papa en parle depuis quelques années. Notre évêque en a parlé en 2017, en décembre 2017. Et donc, c'est à partir de là qu'il y a eu... il y avait des mouvements quand même qui existaient auparavant, notamment un prêtre italien, des mouvements qui existaient également sur Pamiers avec des prêtres d'Ariège. Mmh. Et donc, c'est vrai que l'Église se rend compte que face à l'énorme poids de la paroisse, des petites fraternités peuvent vivre autre chose, et notamment ce partage, avoir le goût de Dieu et vivre fraternellement.
Voilà. Ce sont des petites églises, des petites ecclésias.
Oui, tout à fait.
Des lieux d'église au milieu du monde. Et la soif, vous parliez de la soif, oui, on s'est aperçu il y a 2 ans qu'il y avait une grande soif, puisque la première manifestation diocésaine qui a été organisée avec ce thème des fraternités a réuni plus de 400 personnes sur le diocèse. Nous sommes un petit diocèse, donc c'est quand même un chiffre considérable. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, il y a à peu près 120 personnes qui ont répondu à l'appel. Et franchement, c'est au-delà de nos espérances.
Et puis, dans les visages, moi, je lis de la joie, je lis de l'espérance. Ils sont contents, je crois.
Oui. Tout à fait. Contents de se rassembler. Contents de se connaître aussi, parce qu'on existe chacun un peu dans son coin, alors que là, ça fait un rassemblement diocésain. Oui. Et donc, c'est ce que l'équipe voudrait mettre en place un petit peu, des rassemblements au moins annuels pour que chacun puisse se retrouver en grande assemblée pour célébrer.
Qu'est-ce qu'il se vit ? Alors, il y a le partage de la parole, hein. Vous avez dit le partage d'évangile, le partage des textes du jour, des textes du dimanche. Là, on va dire que c'est le support pour la rencontre.
Oui, le support, le soutien. Dans le sens de soutien. Alors, que ce soit dans les moments difficiles, là, on en a bien besoin, mais aussi dans les moments joyeux, parce qu'on est content de partager les joies avec des frères. Et puis aussi, il y a une émulation autour de la formation, entre guillemets, bien sûr, puisqu'il y a... dans la fraternité dont je fais partie, on se prête des livres, des DVD, donc on a envie de partager beaucoup de choses.
et dans les fraternités où j'ai pu aller, puisque moi je ne fais pas partie actuellement d'une fraternité, mais dans celles que j'ai pu visiter, c'est vrai que ce qui était important, c'était le partage des intentions de prière. Donc ça, c'était extrêmement important parce que ça soutient les membres pour tout au long du temps qui sépare deux réunions. Et puis ce côté fraternel, on se donne des nouvelles, on prend soin de l'autre, on essaye de savoir si ça va bien, comment, quand il partage les soucis, si vous voulez, quand on partage les soucis, on prend des nouvelles et on se téléphone. Et donc ça, ce côté très fraternel, c'est extrêmement important. Et ça ne peut se faire sur qu'un petit groupe.
On fait partie d'une fraternité qu'on a lancée donc avec une responsable donc depuis un peu plus d'un an. Ouais, ça fait un an et demi. Et donc on est 8 aujourd'hui et on se retrouve toutes les semaines après la messe du matin. Et on prend un petit déjeuner ensemble, donc dans la joie de se retrouver tout. Puis après ça, on prend quelques chants et tout et on médite sur la parole du jour. Voilà, il y a un très très beau partage. Ce qui est très émouvant, c'est qu'on commence à accueillir des gens qui sont loin du Seigneur, mais qui sont des chercheurs de Dieu. Et il y en a un qui n'est même pas baptisé. Il y a tout un cheminement qui se fait. C'est très très beau. Voilà.
Ça fait un an, un petit peu plus d'un an, je pense.
Corinne.
Et en fait, on m'a piégée. Voilà. Je ne savais pas que c'était une fraternité. Non, alors je plaisante. Hein. J'allais à la messe à Mirepoix. Et puis Marie-Thérèse m'a dit que plusieurs personnes se retrouvaient chez Geneviève pour partager la parole. Et elle m'a proposé de venir la semaine d'après et j'ai dit oui tout de suite parce que j'aimais bien Marie-Thérèse. C'est vrai, hein. Marie-Thérèse, il y avait une grande histoire avec elle, sans qu'elle le sache vraiment, enfin voilà, de se croiser plusieurs fois à l'église, voilà. Mais moi, je suis baptisée protestante, j'ai pas eu d'éducation religieuse du tout, et j'allais à l'église pour me recueillir suite à une grosse souffrance dans ma vie. Et du coup, où Marie-Thérèse, justement, elle est intervenue sans le savoir non plus, parce qu'elle priait un jour derrière moi. Et du coup, elle priait, parce que j'étais venue me recueillir dans l'église, et puis elle se met juste derrière moi, et elle se met à prier à voix basse, mais quand même. Et moi, ça m'énervait, je disais, mais elle ne peut pas aller se mettre ailleurs. Elle vient marmonner, là. Je comprenais, je n'avais même pas compris que c'était une prière. J'étais énervée. Et puis, j'étais agacée. Et puis, tout d'un coup, je me suis endormie, mais sans même m'en rendre compte. Et j'avais rendez-vous avec une amie, et j'ai carrément oublié même le rendez-vous. Enfin, je me suis réveillée d'un coup, en me disant, mais faut que j'aille au rendez-vous. Et je suis arrivée, on devait boire un café, et je lui raconte l'histoire. Et elle me dit, oh, mais la mamie, elle t'a fait un soin. Et puis après, on s'est recroisés, elle m'a offert une photo du pape François, qui pour moi n'évoquait rien, mais comme c'était un cadeau, ben, je l'ai gardé, je l'ai mis dans ma voiture. Enfin voilà, c'était des petits clins d'œil. Et comme c'est Marie-Thérèse qui est venue me demander, de me proposer d'aller à leur rencontre, et ben j'ai dit oui, voilà. Bah non, je pense que je serais pas là sinon. Non, au contraire, ça a été tout de suite, ça a été une rencontre, quoi. C'est avant la parole, ça a été une rencontre de personnes et ça m'a fait beaucoup de bien.
Marie-Thérèse, Corinne nous a dit que vos chemins se sont croisés, rencontrés. Et elle
a fait un chemin, mais alors extraordinaire. Hein.
Toi aussi.
Moi aussi. Là, c'est l'Esprit-Saint qui a travaillé, là, parce que franchement, je ne suis pas pour grand-chose. Quoi. Mais moi, ça m'a porté, parce que j'ai beaucoup de problèmes à cette époque-là, j'avais... Et qui continue d'ailleurs, mais bon, moins de trucs. Et ça m'a permis de me libérer.
Oui, Sébastien, donc vous avez un témoignage à nous donner. Vous faites partie aussi d'une fraternité. Vous allez y rentrer, vous avez envie
Oui, je fais partie de la fraternité de Mirepoix. Je suis rentré, c'est le hasard, j'ai pas cherché, j'ai pas d'attente. En fait, il y a une fraternité qui s'est faite chez moi, qui est invitée avec Corinne, justement. Et je me suis trouvé là, donc j'ai partagé, j'ai vu comment c'était, et puis ça s'est fait. Voilà, on m'a accepté. On m'a proposé, et moi j'ai trouvé ça chouette. Alors, moi je suis pas, alors c'est un peu compliqué, enfin c'est pas compliqué, mais c'est un peu particulier ma position. Moi je suis pas baptisé, et je suis pas, j'ai pas d'éducation.
La culture, ne connaissait voilà. Pas les textes, la culture.
Par contre, j'ai quand même, avant j'avais lu les évangiles. Par souvent les commentaires des évangiles par quelqu'un qui s'appelle Jean-Yves Leloup, qui a fait plusieurs commentaires sur les évangiles, et ça m'a vraiment parlé beaucoup, quoi, de cet apport d'ouverture, les textes, et puis le questionnement aussi de dans quel monde on vit, quel sens a ce monde de fou. Donc je trouve que tous ces textes apportent vraiment des réponses à l'intérieur qui sont, voilà, moi c'est ce qui m'intéresse vraiment.
Et puis de pouvoir partager ces questionnements.
Et
avec
je trouve ça vraiment, j'ai trouvé ça super de pouvoir partager sur les évangiles nos ressentis avec voilà, des personnes, moi, qui ne sont pas du tout, entre guillemets, mon milieu. Et donc j'adore cet éclectisme.
Et en confiance.
Et en confiance, voilà. Moi, voilà, je trouve ça vraiment très intéressant. Je viens avec plaisir. Et j'aime l'ouverture qui est, justement, de la fraternité. Je me sens accueilli. Et moi, j'aime écouter. J'aime pouvoir, voilà, déposer aussi
vous
ce que...
Vous sentez à votre place,
voilà.
Tout simplement.
Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas de... Ça se fait comme ça.
Se retrouver en petit groupe, chez l'un ou chez l'autre, pour partager avec une méthode simple et en confiance un passage tiré des Écritures, voilà le point de départ des fraternités missionnaires. Si certains ont des connaissances bibliques, d'autres arrivent avec leur questionnement de béotien. Peu importe, ce qui compte, c'est d'avoir envie de lire la parole avec d'autres, d'être curieux de découvrir ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui. Monseigneur Echen ne disait rien d'autre.
Mais méfions-nous de cette logique de sachant et de recevant, parce que là, on est vraiment à l'écoute de ce que l'esprit produit dans le cœur de chacun et de chacune. Et c'est cela qu'il faut recueillir. Si nous ne le faisons pas, nous nous privons d'immenses richesses. J'aime bien aussi cette prière. C'est une prière avant de lire la Bible, on pourra vous la communiquer d'ailleurs, qui a été écrite par Olivier Abel. Elle dit ceci: « Ô Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages comme dans une source inédite qui éclaircisse nos voies, libère nos conversions, nous autorise à parler et à écouter. » Nous autorise. C'est un des grands défis pour l'Église d'aujourd'hui, que les évêques, prêtres et diacres puissent renvoyer à l'ensemble des membres de leur communauté cette idée qu'ils sont autorisés à s'exprimer, à prendre des initiatives, à se dire « je suis dans un village, la messe n'est plus célébrée » ou « une fois par an pour la fête locale ». Est-ce que ça veut dire que s'il n'y a plus la messe, on ne donne plus le signe d'une fraternité de chrétiens et de chrétiennes qui se retrouvent? Alors, à défaut de la présence d'un prêtre qui vienne célébrer la messe, qui nous permette de nous retrouver autour de la parole et de l'Eucharistie, du Verbe, de la parole de Dieu et du Verbe fait chair dans l'Eucharistie qui se donne à nous, nous devons donner un visage à l'Église du Christ, là où nous vivons, à quelques-uns, en nous appuyant sur la parole qui est le bien commun de tous les baptisés. Donne-nous d'entrer, continue la prière, entre les pages ouvertes, de sentir craquer la jointure de notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde et les yeux soudain levés vers notre monde, d'entrevoir son ébranlement, de voir qu'il n'est pas fini. Donne-nous d'être intrigués, retardés dans nos courses fébriles ou apeurées, dans notre lecture trop rapide, non seulement des Écritures, mais de nos existences, la rencontre entre l'Écriture et nos existences. C'est ça qui compte. Alors c'est difficile, parce qu'on a été immergé dans une culture assez pudique, dans laquelle on s'exprime peu sur nos existences, ce qui les anime de joie et de douleur. Certains d'entre vous le disaient, c'est pas facile de témoigner de sa foi. On vit dans des paradoxes très importants dans notre monde. Bientôt, sur des chaînes de télévision devant des millions de téléspectateurs, les gens sont capables de témoigner de leur sexualité, parce que c'est plus du tout du domaine de l'intime. Par contre, de la foi, non. Donc il faut vraiment qu'on libère cette parole tout en respectant chacun. Soyons bien attentifs dans nos groupes, ne pas forcer les uns et les autres à s'exprimer. Il faut vraiment qu'on soit dans un contexte de liberté. Mais il y a cette idée de dire, mais dis-nous, s'il te plaît, fais-nous ce cadeau-là en deux mots. Même toi qui es aujourd'hui incarcéré à la maison d'arrêt, même toi qui aujourd'hui est en grande difficulté sociale et dans la rue, dis-nous, parce que ça va nous éclairer, comment ce texte de la parole rejoint ton existence et tes défis de vie d'aujourd'hui. C'est important aussi d'en prendre la mesure si on se laisse saisir par ce verbe de Dieu, cette parole de Dieu qui est au cœur de notre rencontre fraternelle. Cela va nous donner une soif ou une faim tout à fait extraordinaire de l'Eucharistie.
Et dans l'action de grâce, la journée se poursuit. Chant, rencontre, partage de vie, échange et sourire. Joie immense et toute simple.
Josiane, du secteur donc de Haute-Ariège, c'est ça, Tarascon précisément.
Donc, voilà. Vous êtes levé tôt ce matin alors pour arriver jusqu'ici, jusqu'à Pamiers.
Ah oui, puisque, bon, enfin quand même, il ne faut pas exagérer. Il y a 35 minutes à peu près, hein, l'accès a été facile. Mais ma grande joie a été de retrouver cette grande communauté et retrouver aussi des gens que je connaissais, que nous voyons peu. Le Covid nous avait séparés toutes ces périodes. De retrouver aussi toute cette envie d'être ensemble, tout ce dynamisme, tous ces projets, et de voir qu'on n'est pas isolés, qu'on n'est pas des chrétiens isolés.
Petite fraternité dans la diversité, mais tout, c'est être un dans la diversité.
Tout à fait, ça s'est ressorti très nettement dans ce qui a été annoncé. Trouver cette joie, la partager, et faire communauté par petits groupes. Et ça me paraît essentiel aujourd'hui. À renforcer, à encourager et être dans cette dynamique.
Une nécessité même.
Ah oui, absolument. Pour un croyant, c'est indispensable. Un chrétien ne peut pas être seul.
Ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque. Joie, partage, écoute de la parole de Dieu, le thème de la journée. Venus de Plavilla, quelques petites sœurs de l'agneau apportaient leur témoignage, animaient des ateliers, mendication de la parole. Sœur Marie-Liès.
Donc on est les petites sœurs de l'agneau, mais on ne va pas plus se présenter que ça. De toute façon, ce qu'on va dire de notre vie avec la parole, ça dit beaucoup de toute notre vie, parce que c'est la source, c'est ça qui irrigue, qui nous apprend, c'est l'école en fait. C'est une école de vie pour nous, la parole, et tous les aspects de notre vie, on les apprend et on les reçoit de la parole qui nous enseigne comme une mère, comme une sœur, comme une amie. Et Ce qui me venait juste, c'était en entendant ce qui a été dit, on peut juste dire pourquoi on s'appelle petite sœur et pas juste sœur. C'est en tout cas venu d'un verset de l'Évangile qui dit, quand Jésus s'écrit « Je te bénis, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Donc on a failli s'appeler les toutes petites sœurs, mais c'était un peu long finalement. Mais ça dit ce désir d'être sage ou intelligent, voilà, mais d'être de ces tout petits qui se laissent vraiment enseigner par la parole et qui sont mendiants. On est des petites sœurs mendiantes, mais c'est pas que extérieur, ça devrait être une attitude intérieure. Que nous apprend Jésus lui-même qui mendie notre amour, qui se fait petit devant nous et que nous enseigne la parole. On voit bien qu'elle est mendiante devant nous, que la parole, souvent c'est un peu aride et la parole elle est pas, voilà, elle est mendiante. Est-ce que tu vas bien vouloir me donner de la place dans ta vie? Est-ce que tu vas bien vouloir prendre le temps de m'écouter? Est-ce que tu vas bien vouloir me manger, me répéter jusqu'à ce que tu reçois vraiment une lumière jusqu'à ce que ton cœur soit transformé. Et on voudrait, nous, devant la parole aussi, avoir cette attitude mendiante de ne pas dire « ça y est, j'ai compris, j'ai saisi ». Moi, je vois que je suis un peu comme ça. Spontanément, je lirai un texte une fois et puis bon, « ça va, j'ai compris, voilà, c'est ça qui nous est dit ». Et je vois que la parole, elle m'enseigne une autre attitude. Ça ne marche pas comme ça avec la parole. Mais il ne faut pas la lire une fois, il faut la lire 100 fois, mais un verset, un mot, comme disait le Père, répéter, ruminer, jusqu'à ce que, non pas « j'ai compris, Jésus dit ça », mais voilà, dans mon cœur, il se passe ça. Et la question, c'est plus pour nous, parce que j'ai entendu ces belles questions, qu'est-ce que Dieu a fait? Et on pourrait le traduire pour nous, quand on partage aussi entre nous, qu'est-ce que la parole a fait pour moi? Qu'est-ce que la parole a fait en moi? Qu'est-ce que la parole est en train de faire en moi? Qu'est-ce qu'elle est en train de guérir, d'apaiser, de convertir? Parce que la parole, elle ne nous laisse pas non plus tranquille. C'est pour ça aussi que parfois, on n'a pas trop envie de l'ouvrir ou de passer du temps à ruminer, parce qu'on risque d'être dérangé dans nos habitudes ou dans notre mentalité. Mais donc, cette attitude mendiante de « oui, je veux bien me laisser... voilà, je veux bien me laisser enseigner, me laisser transformer, parce que c'est pas une question d'avoir compris, c'est une question d'avoir été façonné et transformé à ce contact de la parole. Et voilà, et ça irrigue, c'est vrai, toute notre vie.
Si beaucoup au cours de la journée témoignaient et partageaient de ce qu'ils vivent au sein de leur fraternité, d'autres découvrir.
En fait, je connais bien les fraternités, je connais des gens qui y sont, mais j'ai pas eu le temps d'en créer une dans mon quartier, et donc j'ai pris des contacts avec des noms, et donc ici, je viens surtout pour avoir des informations, soit pour peut-être m'insérer dans une, ou en monter une, ou quelque chose comme ça.
Vous savez un petit peu de quoi il s'agit?
En fait, on n'a pas tous le même point de vue. Quand je discute avec des gens qui sont déjà dans des fraternités, il y en a, je caricature, hein, c'est plutôt des gens qui se connaissaient avant, ils se sont remis ensemble. Alors que moi, je voudrais plutôt prendre vraiment des gens de ma rue, de mon quartier, ou quelque chose comme ça. Tiens, il y a une telle qui est âgée, qui est isolée, ou il y a une telle qui... Je sais pas, c'est arrivé, il y a une fille qui a fait une tentative de suicide, là. Vous voyez, que ce soit vraiment des gens qui soient ensemble et qu'on témoigne de cette façon, là, hein. Pas un peu dans les hautes sphères.
Oui, c'est créer vraiment des communautés vraiment de proximité.
Voilà, tout à fait, c'est le terme. Voilà, vous avez traduit en un mot, proximité, vous avez tout à fait traduit ce que je pense.
Déborah, vous faites partie d'une fraternité?
Non. Je ne sais pas trop quoi dire, en fait, parce que l'ouverture du cœur n'est pas venue là, en fait, il y a quelques mois, et suite à une retraite à Saint-Martin-du-Canigou. Bon, voilà, je vais passer à autre chose. J'ai reçu ma communion il y a peu, pour le lundi de Pentecôte. Et là, quand j'ai lu sur Ephata qu'il y avait cette journée, c'est pas venu de suite, justement. C'est venu dans la semaine où ça m'a dit « mais tu peux y aller ». Comme si j'avais besoin d'une autorisation. Voilà, et donc s'il y a une attente, c'est de me rapprocher des chrétiens. Voilà, c'est plus ça, de goûter à ça, parce que c'est assez nouveau pour moi. Je me sens naissante dans l'Église, pas dans mon lien à Dieu, mais en tous les cas dans l'Église, oui.
Dans la fraternité avec d'autres chrétiens,
peut-être. Oui, complètement. Oui.
Et cette fraternité ce matin, est-ce que vous l'avez perçue un petit peu?
Oui, j'ai eu envie de pleurer plusieurs fois. Donc, oui, je me sens touchée et à ma place aussi. Je suis heureuse d'être là.
Et Déborah, comme bien d'autres, a peut-être perçu ce jour-là un peu de cet indicible, un peu de cette joie immense et toute simple. Celle de ceux qui rompent le pain dans les maisons, prennent leur repas avec allégresse et simplicité et louent Dieu.